journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Y a-t-il un accord secret entre la France et l'Irak sur les djihadistes français de Daesh? En visite à Paris, le président irakien Bahram Saleh a évoqué 13 djihadistes français livrés ce week-end à Bagdad. Les explications de Christian Chéneau dans un instant. En Afghanistan, une partie de la population souhaite le retour au pouvoir des talibans alors que la milice islamiste négocie avec les Américains. Ce sera le dossier de ce journal avec le reportage à Kaboul de Sonia Ghezali. Le président algérien Bouteflika sera bien candidat à un cinquième mandat. Son premier ministre Ahmed Ouyahia oppose une fin de non-recevoir aux dizaines de milliers de manifestants du week-end. La correspondance à Alger de Leïla Berato. La crise au Venezuela, les États-Unis réitèrent leur soutien à Juan Guaido. Le président autoproclamé a rencontré aujourd'hui à Bogota le vice-président américain Mike Pence. Les précisions de Benjamin Delisle. En France, le Parti communiste perd l'une de ses figures historiques. Roland Leroy est mort hier soir à l'âge de 92 ans. Ancien directeur de l'Humanité, Roland Leroy était un autodidacte qui aura gravi presque tous les échelons de la hiérarchie communiste. Son portrait avec Anne Fauquemberg. Et puis, peut-on parler d'un tournant dans le feuilleton du Brexit? En tout cas, l'Union européenne évoque désormais ouvertement un délai supplémentaire pour la sortie du Royaume-Uni. La date limite du 29 mars est publiquement remise en cause. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir.
En direct de Bruxelles, Pierre, cette fois c'est le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui a évoqué ce délai supplémentaire. C'était à Sharm el-Cheikh, en Égypte, en marge du sommet entre l'UE et la Ligue arabe.
Effectivement, et Donald Tusk est allé jusqu'à dire qu'un report de la date butoir au-delà du 29 mars minuit serait même une solution rationnelle. Le président du Conseil européen en a d'ailleurs parlé dans le détail avec Theresa May, elle aussi présente à Sharm el-Cheikh, puisqu'il a évoqué avec la première ministre les questions juridiques et de procédure que soulève la perspective de ce report, bien que de son côté, Theresa May s'y est toujours expressément opposée jusqu'ici, mais sa décision de ne pas tenir le vote aux communes demain ne lui laisse peut-être plus beaucoup d'espace de manœuvre, même si elle continue à affirmer aujourd'hui que ce serait que repousser le problème. Il y a donc désormais apparemment une convergence de déclarations qui montre qu'un report est bien à l'étude entre Britanniques et Européens, puisque le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, a affirmé vendredi qu'il ne l'écartait plus de son côté. Et ce sommet entre l'UE et la Ligue arabe a décidément été aussi l'occasion pour les Européens de multiplier les apartés et déclarations sur le Brexit. Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, affirme par exemple que d'ici le 29 mars, il ne pourrait y avoir qu'un accord ou un report. Tout est donc fait pour écarter la perspective d'une sortie sans accord, le no deal. Theresa May a aussi rencontré Jean-Claude Juncker pour parler spécifiquement des mécanismes alternatifs à inventer pour remplacer le filet de sécurité sur l'Irlande.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles, merci. Effectivement, initialement, les députés britanniques devaient se prononcer demain sur l'accord de Brexit que Theresa May tente de renégocier avec Bruxelles. Mais la Première ministre a reporté ce vote qui devrait finalement intervenir d'ici le 12 mars. Le président irakien Bahram Saleh est à Paris aujourd'hui où il a rencontré Emmanuel Macron. La question des djihadistes français détenus par Bagdad a bien sûr été évoquée par les deux hommes. Ce week-end, des sources militaires irakiennes affirmaient que les forces démocratiques syriennes avaient livré à l'Irak 14 Français membres de l'État islamique, les FDS, qui sont sur le point de conquérir l'ultime bastion de Daesh en Syrie. Cet après-midi à l'Élysée, le président irakien a parlé de 13 djihadistes français, un chiffre qu'Emmanuel Macron a refusé de confirmer. Christian Chéneau a suivi la conférence de presse des deux chefs d'État.
Emmanuel Macron est resté laconique sur le transfert des 13 djihadistes français vers l'Irak alors qu'ils ont été capturés en Syrie. Pour le chef de l'État, ces transferts s'inscrivent dans le cadre d'une coopération sécuritaire entre les FDS, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes, avec les autorités de Bagdad.
Pour les Français majeurs détenus ou qui seraient transférés, ils relèvent d'abord des autorités de ce pays à qui il revient de décider souverainement s'ils doivent faire l'objet de procédures judiciaires sur place. Et ces personnes ont le droit de bénéficier de la protection consulaire. Et à ce moment-là, notre réseau diplomatique et où sera mobilisé en ce sens.
On a le sentiment d'une sorte d'accord entre Paris et Bagdad pour transférer les djihadistes les plus dangereux. Pour autant, les autorités irakiennes vont-elles accepter d'autres djihadistes français? Sur ce point, le président irakien Bahram Saleh a tenu à recadrer les choses.
Those who have engaged in crimes ceux qui ont commis des crimes contre l'Irak, les Irakiens, les installations irakiennes et contre la loi irakienne seront poursuivis en justice et ils seront jugés devant les tribunaux irakiens.
On l'aura bien compris, les deux présidents ne souhaitent pas s'appesantir sur ces opérations de transfert transfrontalier de djihadistes. Ce qui est sûr, c'est que Paris n'est pas pressé de les récupérer.
Christian Chesneau, merci. Lui avait mené le djihad en Europe. Mehdi Nemmouche est jugé à Bruxelles pour la tuerie du musée juif de la capitale belge en 2014. Le djihadiste se tait depuis le début du procès. Façon pour lui de clamer son innocence. Un mutisme dénoncé par le procureur général dans son réquisitoire. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Marette.
Pour le procureur fédéral, ces 23 éléments sont des petits cailloux, voire même des briques qui concordent vers une culpabilité de Mehdi Nemmouche. Pris isolément, certains ne permettent pas d'affirmer qu'il est le tueur du musée juif, mais pris ensemble, ils permettent d'aboutir à une conviction suffisante, car pour Bernard Michel, le hasard a des limites dans la vie. Alors quels sont ces éléments? Voici une liste non exhaustive. La présence de Mehdi Nemmouche à Bruxelles le jour et à l'heure de la tuerie, ville dans laquelle il n'a aucune attache. L'absence totale d'alibi au moment de la tuerie. Sa connexion sur son ordinateur à 16h14, juste après l'attentat, le temps pour lui de revenir à son domicile. La taille et la morphologie du tueur analysées sur les vidéos du musée, elles correspondent avec celles de Mehdi Nemmouche. Les images du musée, la veille du massacre, on y voit un homme qui effectue un repérage. Cet homme a été comparé avec le tireur et les images de l'arrestation de Mehdi Nemmouche à Marseille. Pour les experts, il s'agit bien d'une seule et même personne. Tout correspond jusqu'au dessin de l'oreille. Les armes trouvées dans les affaires de Mehdi Nemmouche à Marseille sont celles qui ont servi à l'attentat. Les vidéos de revendication, même voix et mêmes expressions utilisées par Mehdi Nemmouche. La casquette Nike portée par le tueur, le même modèle que celui de Mehdi Nemmouche. Le grand intérêt du suspect pour les événements du 24 mai. Quand il est arrêté en France, il est en possession de nombreux journaux avec des croix à côté des articles relatant l'attentat. Son attitude au moment et après son arrestation, il reste calme, il sourit et fait même de l'humour. Pour le procureur, cette attitude ne correspond pas avec celle d'un homme innocent. Tous ces éléments, explique Bernard Michel, vont dans la même direction. C'est bien Mehdi Nemmouche qui a battu 4 personnes au musée juif de Belgique.
Antoine Marette, envoyé spécial de France Culture au procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir à Kaboul. Dans sa volonté de ramener les soldats américains à la maison, Donald Trump n'oublie jamais l'Afghanistan. L'actuel locataire de la Maison Blanche veut en finir avec ce qu'il appelle les guerres éternelles des États-Unis, si possible par la négociation. C'est pourquoi Washington discute avec les talibans afghans. Une 5e séance de pourparlers s'est ouverte aujourd'hui à Doha, au Qatar. Au cœur des discussions, le retrait des 14 000 soldats américains stationnés en Afghanistan. À Kaboul, la capitale, une partie de la population rêve du retour aux affaires de la milice islamiste, chassée du pouvoir en 2001 après les attaques du 11 septembre. Sonia Ghezali s'est rendue à Bagrami, un quartier pro-taliban de Kaboul.
Dans les ruelles boueuses de Bagrami, les femmes se promènent sous une burqa ou sous un voile qui laisse découvrir leur visage. Rien ne laisse deviner le conservatisme religieux qui domine ici plus qu'ailleurs. Haji Khan Mamat, le chef de la communauté, a un discours progressiste. Il dit soutenir la démocratie, mais lorsqu'il s'agit des femmes, son discours est plus rigoriste.
90% des femmes afghanes n'ont pas de problème avec les talibans. Leur vision correspond à notre culture. Les femmes restent à la maison et ne travaillent pas. Peut-être que quelques femmes veulent des changements. On demandera de toute façon aux talibans de changer leurs règles pour les femmes qui le souhaitent.
Son épouse Shabana ne sort que rarement. Elle n'évoque pas l'importance de ses droits. Pour elle, la priorité est ailleurs.
Nous voulons la paix. Si les talibans reviennent, cela signifie que ce sera la paix. Et c'est tout ce que nous voulons.
Selon l'ancien cadre taliban Wain Mujda, l'idéologie des insurgés concernant les femmes correspond à la mentalité de la société afghane.
Quelques femmes ici à Kaboul disent qu'elles veulent des droits, mais si vous pensez au droit de jouer au foot, par exemple, eh bien ce sera impossible. S'il n'y avait pas les forces étrangères, il serait impossible pour les femmes de jouer au foot ici. Et pareil pour la Saint-Valentin, c'est inacceptable, pas que pour les talibans, mais pour la majorité des Afghans.
Dans ce quartier, les déçus de la République islamique afghane sont nombreux. Reza Khan est l'un d'eux. Ce fermier souhaite ardemment le retour des talibans.
La République islamique d'Afghanistan n'a d'islam que le nom. Rien n'est islamique ici. Regardez la corruption dans le système. Si vous avez affaire à la justice, cela vous prendra 3 ans. Avec les talibans, les problèmes sont réglés en 3 jours. Nous voulons le système des talibans. Nous espérons que la paix sera pour bientôt. Les talibans sont nos frères. Et nous serons heureux s'ils reviennent au pouvoir. Il le faut pour la paix. Tous les Afghans veulent la paix.
Ici, outre le retour au conservatisme religieux, on n'hésite pas à présenter les talibans comme le meilleur rempart contre la corruption endémique et contre la criminalité galopante, deux fléaux de l'Afghanistan post-2001.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI en Afghanistan. En Algérie, une partie de la population commence à se mobiliser contre un probable cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers de manifestants vendredi dans les rues d'Alger pour rejeter la nouvelle candidature du président algérien. Cloué dans un fauteuil roulant depuis son AVC en 2013, Bouteflika serait arrivé hier à Genève pour des examens médicaux. Et c'est son premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui s'est chargé de répondre aux manifestants. Une fin de non-recevoir, Bouteflika sera bien candidat le 18 avril prochain. On retrouve à Alger Laïla Berato.
C'est la première réaction officielle. Face aux députés Ahmed Ouyahia, le Premier ministre a reconnu le nombre important de manifestants et le fait que les manifestations s'étaient déroulées dans le calme. Il a affirmé que manifester était un droit et il a salué le travail des forces de l'ordre. Mais il n'a ensuite laissé que peu d'espoir au scénario d'un retrait du candidat Bouteflika.
Chacun a le droit de défendre le candidat qu'il souhaite et chacun a le droit de s'opposer au candidat auquel il souhaite s'opposer, à condition que cela s'exprime par les urnes de manière pacifique et de manière civilisée.
Il a également mis en garde contre de possibles dérapages, notamment parce que les appels à manifester sont anonymes, en faisant référence à la décennie de terrorisme qu'a vécu le pays. Enfin, Ahmed Ouyahia a répondu à ce qu'il entend comme une demande de réforme. Pour le Premier ministre algérien, cette demande trouvera une réponse dans la grande conférence nationale inclusive annoncée lors de la candidature officielle d'Abdelaziz Bouteflika. Cette conférence est ouverte à tout le monde, a souligné le Premier ministre.
Laïla Berato, correspondante en Algérie. Un autre président sur la sellette, c'est Nicolas Maduro. Mais contrairement à Bouteflika, le chef de l'État vénézuélien est en pleine forme et il refuse obstinément de partager le pouvoir avec son adversaire, le président autoproclamé Juan Guaido. Maduro a bouclé le Venezuela pour empêcher l'entrée de l'aide humanitaire, notamment américaine. De son côté, Juan Guaido est à Bogota, en Colombie, où il a reçu le soutien appuyé du vice-président américain Mike Pence. Les deux hommes participent à la réunion du groupe de Lima qui rassemble 13 pays latino-américains et le Canada. Les explications de Benjamin Delisle à Caracas.
L'opposition vénézuélienne a perdu son pari samedi en échouant à faire entrer l'aide humanitaire, mais elle entend bien profiter de la violente répression des soldats toujours fidèles au gouvernement vénézuélien pour accentuer la pression. Devant le groupe de Lima, Juan Guaido, poussé par les opposants en exil Julio Borges et Antonio Ledesma, devrait demander à ses alliés internationaux de faire usage de la force pour en finir avec Nicolas Maduro. Une solution qui est loin de faire l'unanimité en Amérique latine. Des pays comme le Chili ou le Pérou le répètent depuis hier, ils ne sont pas favorables à une solution militaire. Selon eux, la pression doit être économique et diplomatique, renforcer l'isolement du gouvernement vénézuélien pour le faire craquer. A priori, ce sont les États-Unis qui devraient jouer le rôle d'arbitre, mais Washington est partagé. Une intervention militaire donnerait raison à Nicolas Maduro, selon qui l'aide humanitaire n'était qu'un prétexte en vue d'une invasion. Dans le même temps, l'annonce de nouvelles sanctions économiques ne ferait que prolonger la souffrance des Vénézuéliens déjà durement affectés par la crise économique. Et pour la première fois depuis le 23 janvier, un grand nombre d'entre eux se disent favorables à l'intervention.
Benjamin Delisle, correspondant au Venezuela. Incertitude au Sénégal après l'élection présidentielle d'hier. Le camp du président sortant Macky Sall revendique la victoire dès le premier tour. Ce que contestent ses deux principaux rivaux, l'ancien premier ministre Idrissa Seck et le député anti-système Ousmane Sonko. Les deux hommes réclament un deuxième tour. Pour l'instant, aucun résultat officiel n'a été publié. Au Nigeria, le pays attend aussi les résultats de l'élection présidentielle. Selon les premiers chiffres, le président sortant Muhammadu Buhari est au coup d'à coude avec l'ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar. En France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a reçu tout à l'heure les syndicats de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde. Le constructeur américain a rejeté aujourd'hui la seule offre de reprise sur la table, celle du groupe franco-belge Punch Powerglide, au grand dam des 850 salariés du site. Il faut préciser que Ford a le droit de refuser la reprise de l'usine qu'il veut fermer, car la loi dite Florange, qui prévoit l'obligation de rechercher un repreneur pour un site industriel, n'oblige pas à le vendre. Les explications de Marie Viennot.
Du premier plan présenté par Punch à l'automne au nouveau présenté la semaine dernière, les arguments de Ford pour refuser de vendre l'usine de Blanquefort n'ont pas changé. Vendre n'est d'ailleurs pas le bon mot, car dans un contrat de reprise, celui qui cède, souvent, ne touche pas d'argent du repreneur et au contraire, il doit faciliter la reprise. Tout dépend du plan et il faudrait avoir accès à celui qu'a présenté Punch pour le dire précisément, mais on peut deviner ses exigences dans la réponse de Ford à son plan. Ce plan aurait nécessité, écrit Ford, des garanties d'achat pour un volume durable de production sur une période donnée et des liquidités pour maintenir la viabilité de l'entreprise au cours des premières années. Autrement dit, Ford devait continuer à acheter des boîtes de vitesse à l'usine de Blanquefort pendant plusieurs années encore, rester client de son ex-usine donc, et il devait également financer en partie le repreneur. Au final, céder à Punch pour écouter davantage à Ford que le plan social qu'il propose. Et c'est d'ailleurs ce que laissait entendre Bercy il y a quelques semaines pour expliquer les réticences du constructeur américain. Ford explique aussi que son plan social offre plus de visibilité sur leurs options à venir au salariés. Il offre surtout plus de visibilité à Ford qui, en cas de reprise, resterait lié à l'usine de Blanquefort. En 2008, le constructeur américain avait déjà cédé l'usine à un repreneur et il avait dû revenir sous la pression des pouvoirs publics quand ce plan avait échoué. Voilà 10 ans donc qu'il cherche à partir de France et cette fois, il espère que ce sera la bonne.
Marie Viennot, merci. Et à l'instant, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, fustige l'attitude indigne de Ford à Blanquefort. Le ministre qui annonce la création d'un groupe de travail sur l'avenir du site girondin. Le communisme français est en deuil. Roland Leroy, l'ancien directeur de l'Humanité, est mort hier soir à son domicile dans l'Hérault. Il avait 92 ans. Résistant, député, Roland Leroy était surtout connu pour sa longue carrière à la tête du quotidien communiste. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Roland Leroy était un communiste à l'ancienne, un autodidacte issu d'une famille ouvrière.
Un père cheminot, une mère ouvrière textile. Roland Leroy est né en 1926 sur la terre de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime, un département où il a commencé son parcours militant en 1942, juste avant la guerre, où il s'illustrera comme résistant. La famille est politisée, un oncle cégétiste du côté maternel, qui a d'ailleurs été déporté en Allemagne, et un père proche de l'anarcho-syndicalisme, un père qui l'a éveillé très jeune à la culture grâce à son statut de cheminot, expliquait Roland Leroy en 2012 dans l'émission À voix nue sur France Culture.
Mon père voyageait gratuitement parce qu'il était ouvrier ajusteur de précision au chemin de fer et qu'il avait une carte de chemin de fer. Moi, je voyageais gratuitement puisque toute la famille a le droit de voyager. Et il m'emmenait très souvent à Paris le dimanche. On prenait le train à 6h du matin à la gare d'Elbeuf-Saint-Aubin. On arrivait à la gare Saint-Lazare. On avait un petit sandwich dans une musette, mon père à sa casquette. Pantalon de velours. Je suis allé plusieurs fois avec lui au Louvre. On allait aux manifestations ouvrières et on a visité Paris, etc., etc., etc.
En 1945, Roland Leroy deviendra d'ailleurs lui-même cheminot tout en gravissant un à un les échelons du Parti communiste, même s'il se montrait parfois sceptique sur l'union de la gauche, ce qui lui vaudra une exclusion à la fin des années 70. Trois fois élu député, il était aussi proche des artistes engagés de l'époque, Picasso, Louis Aragon, Elsa Triolet. Roland Leroy mène les débat, il dirige pendant 20 ans le journal L'Humanité. Il incarnait l'élégance et l'intelligence, le raffinement dans l'analyse et l'écriture, selon le directeur actuel du journal, Patrick Lejaric. Et sur les réseaux sociaux, militants et sympathisants estiment ce soir que le plus bel hommage à rendre à cet homme de combat serait désormais de sauver ce journal plus que centenaire et toujours en redressement judiciaire.
Anne Fauquemberg, merci. On se souvient aussi de l'éditorialiste Roland Leroy qui aura croisé le fer pendant des années avec Jean d'Ormesson sur France Inter. Leroy, c'était c'était Luma et d'Ormesson, c'était Le Figaro. Et retrouvez sur franceculture.fr Roland Leroy dans cette émission à voix nue, série d'entretiens réalisée en 2012. Conséquence des conditions anticycloniques sur la France, la qualité de l'air est médiocre dans la plupart des grandes agglomérations. En Ile-de-France, la préfecture reconduira demain la réduction de 20 km/h de la vitesse autorisée sur les routes, mesure insuffisante pour la ville de Paris qui réclame des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants. Le temps demain qui restera anormalement doux et ensoleillé pour une fin février, les brouillards matinaux laisseront rapidement la place au soleil partout dans l'Hexagone. Les températures minimales seront fraîches de moins 4 à 6 degrés du nord au sud. Les maximales s'envolent de 15 à 20 degrés au nord de la Loire, de 17 à 25 degrés au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Emmanuel Faucillon.